Les meeples sont de sortie. C'est la pause à midi. C'est ludique, c'est ludique. Les jeux, c'est magique.
Et bonjour à tous, bienvenue dans C'est Ludique, les amis. On est le lundi 21 octobre, qui dit lundi dit premier jour de la semaine, donc on va parler jeu pendant déjà 5 jours, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. D'ici quelques instants aussi, on retrouvera Ludo comme tous les lundis, et il s'intéresse à une question, le point sur les J. Aujourd'hui on va parler de locomotive, mais rien à voir avec les aventuriers du rail, on va parler de locomotive. Est-ce qu'il faut une locomotive pour une maison d'édition, tout simplement? Et je vais vous parler d'un petit jeu de cartes pour commencer. C'est ludique, ça commence tout de suite.
C'est la pause déjeuner, Nat pour t'inviter à jouer. C'est ludique, encore plus de nouveautés.
Et au menu aujourd'hui, eh bien c'est Echo, un jeu de Xavier Jauneau illustré par Alison Mashpee. Echo, c'est un jeu de défausse de cartes édité par The Flying Games. Pour l'emporter dans Echo, vous devez vous débarrasser de toutes vos cartes. Le jeu se joue en plusieurs manches. Alors au niveau de la mise en place, c'est très rapide. Vous mélangez 98 cartes numérotées de 1 à 98. Selon le nombre de joueurs, vous allez en distribuer plus ou moins. Si on joue à 4, eh bien chaque joueur va recevoir 6 cartes. On va dévoiler une carte de la pioche qui indique un numéro et un symbole, plus ou moins. Et bien voilà, vous êtes prêt à jouer. Mais alors comment on joue? À votre tour, vous allez jouer une carte en respectant le symbole. Par exemple, il y a le 27 et le symbole est plus. Je dois jouer une de mes cartes dans mon jeu supérieur à 27. Je joue le 42 et il y a un symbole moins. Le joueur suivant doit jouer une carte inférieure à 42 et ainsi de suite. En gros, toutes les cartes avec un numéro impair ont le symbole plus et toutes les cartes paires ont le signe moins. Bon, le jeu ne s'arrête pas là, hein. Il y a des petits twists. Hein. On va commencer avec les cartes qui sont des multiples de 11. Les cartes sont orange, les autres sont bleues. Hein. Donc voilà, donc on ne peut pas se tromper. Quand vous jouez un multiple de 11, par exemple 22, eh bien vous allez avoir le droit de rejouer en respectant bien sûr le symbole indiqué sur la carte. Si quand vient le tour d'un joueur, il ne peut pas jouer car il n'a aucune carte compatible avec la carte jouée précédemment, dans ce cas, il pioche et son tour s'arrête immédiatement. Il ne peut pas jouer la carte qu'il vient de tirer, même si c'était possible pour lui. Parlons maintenant des cartes miroirs. Alors ces cartes, vous allez pouvoir les jouer même si c'est pas à votre tour de jouer. Alors je vous explique, il y a le 29 de posé, dans votre jeu vous avez le 92. Vous posez cette carte sur le 29, 92 étant la carte miroir de 29. Ça marche dans l'autre sens aussi. Et là, pas besoin de respecter les symboles plus ou moins. Par contre, il faut se dépêcher avant qu'un joueur ne pose une carte. Il ne faut pas être 3 heures à réfléchir. Le fait de poser une carte, ça vous donne deux avantages. Déjà, vous jouez, alors que c'est peut-être pas votre tour. Et ensuite, vous avez le choix. Soit vous allez défausser une de vos cartes. Je vous rappelle que le but, c'est de se débarrasser de toutes vos cartes. Ou, eh bien, tous les autres piochent une carte. C'est vous qui décidez. Dernière chose à savoir, si vous faites une erreur, vous deviez jouer par exemple une carte plus haute et vous mettez une carte inférieure, ou vous trompez dans les cartes miroirs, alors en plus de reprendre votre carte, vous en piochez une nouvelle. C'est comme ça. La manche s'arrête dès que l'un des joueurs s'est débarrassé de toutes ses cartes. Les autres joueurs comptent leurs points. Une carte bleue, c'est un point. Une carte orange, donc les multiples de 11, eh bien c'est 2 points. On enchaîne les manches et quand l'un des joueurs atteint 25 points, celui qui a le moins de points remporte la partie. Echo, ça se joue jusqu'à 8 joueurs. Alors Echo, ce que j'en pense, c'est accessible, ça joue très rapidement, on a envie d'enchaîner les parties. Dans le même style de jeu, on a Oulaou, encore le classique Uno, bien sûr. Alors depuis que je l'ai ce jeu, on le sort facilement, avec les grands-parents notamment. Les raids, ça prenne en 30 secondes. Hier après-midi, les papiers mamie ne voulaient jouer qu'à ça. Echo, c'est un jeu tout simplement intergénérationnel. Allez, d'ici quelques instants, on va retrouver Ludo pour le point sur les J.
C'est la pause du midi, il te donne son avis. C'est ludique, c'est ludique, c'est le point sur les J.
Et celui qui donne ton avis, c'est tous les lundis, et c'est Ludo. Salut Ludo.
Salut Matt, bonjour à toutes et à tous.
Alors aujourd'hui, on va parler d'un thème sur la locomotive. Alors pas les aventuriers du rail, encore que. Un éditeur, ouais, pour vivre doit-il avoir une locomotive, Ludo?
Exactement. Alors déjà, on va définir ensemble ce que ça veut dire, économiquement parlant, une locomotive.
Oui, voilà,
parce que,
exactement.
Bon, voilà, c'est un terme qui n'est pas toujours utilisé. Donc une locomotive, c'est soit une personne ou un objet qui joue un rôle moteur dans un secteur particulier.
Mm-hmm.
Alors ici, dans le domaine du jeu de société, on va appeler locomotive un jeu dont les ventes sont à la fois très hautes,
ouais,
et donc génèrent beaucoup de profits, mais aussi sur une longue durée.
C'est
et ça, c'est important. Parce que la locomotive, elle parcourt du chemin.
C'est ça, il ne faut pas juste un TGV qui fait un aller-retour. Hein.
Ouais, non, voilà, c'est sur une grande période. Alors, il y a Seven Wonders, les aventuriers du rail, comme tu l'avais dit, donc le rapport entre la locomotive et les aventuriers du rail, il est très très facile à faire. Alors, d'après l'Union des éditeurs de jeux, il va exister actuellement en 2024 194 éditeurs de jeux de société en France et aux alentours,
d'accord,
dont 68 qui sont en statut d'auto-édition.
Okay.
Donc un tiers, on va dire. Il existe aussi 15 distributeurs, alors plus ou moins gros, hein, je ne vais pas les détailler, mais entre Hachette et puis un petit distributeur local, tu comprendras bien que les données et puis les objectifs ne sont pas les mêmes. Alors, selon le blog suisse de mon ami Gus, depuis 5 ans, c'est plus de 3500 nouveaux jeux de société qui sortent chaque année sur le marché.
Ouais.
Alors, avant, on disait 1000, mais parce qu'on comptait pas les extensions, les rééditions,
d'accord,
etc. Mais quand on met tout dans le même panier, on est à 3500 jeux de société. On va enlever le mot nouveau et on va mettre un jeu de société. En 2022, c'est l'Amérique du Nord qui détient 28%, un peu plus de 28% du marché,
okay,
et qui est donc le plus gros marché du monde. Ensuite, on a l'Asie Pacifique qui constitue le second marché avec environ un peu plus de 5 milliards de dollars de revenus. Et l'Europe, nous-mêmes, on arrive troisième avec environ 4,3 milliards de dollars. Alors, tu vas me dire pourquoi toutes ces données là de macroéconomie?
Mais oui.
Eh ben, parce qu'en fait, maintenant, c'est juste pour montrer que le marché français ne suffit plus, en fait, pour vivre et pour
un
éditeur. Il faut inonder, abreuver, travailler avec le marché mondial. Et pour pouvoir franchir donc les frontières de son pays, la barrière de la langue, par exemple, pour le marché français, donc il y a aussi la Suisse et la Belgique, il faut exporter. Alors, en export, en jeu de société, ça signifie souvent des grosses ventes. Et donc, soit le jeu plaît sur le papier et le partenaire international qui est responsable de la localisation est trouvé avant la sortie du jeu, soit, et c'est souvent le cas d'ailleurs, le partenaire va attendre de voir comment le jeu se vend sur son marché principal,
ouais,
notamment par exemple en France, pour ensuite décider une localisation ou non. Et ce dernier détail-là, ça peut prendre plus d'un an après, en fait, la sortie nationale du jeu.
Ah oui, d'accord.
C'est pour ça qu'il y a des salons professionnels qui sont là pour uniquement trouver des partenaires étrangers. Et Essen en est un aussi. C'est aussi une vitrine. Donc, dans ce dernier cas de figure, les gros distributeurs, eux, ils ont des filiales, tu vois, sur d'autres marchés. Et ils n'ont pas besoin d'attendre, en fait, la signature d'un contrat, comme Asmodée. Asmodée, ils vont avoir Asmodée USA, Asmodée Asie, etc. Donc, en fait, les accords sont déjà signés sur le long terme. Donc, quand tu as une sortie qui est faite chez un studio d'Asmodée, dans la grosse majeure partie du temps, le jeu, il va déjà être prévu en production et en distribution à l'international.
Ouais.
Quoi qu'il en soit, les blockbusters ludiques s'exportent beaucoup plus facilement, hein, comme les Unlock, Aventuriers du Rail ou autres zombicides, car le simple fait que les jeux soient installés et qu'il y ait une forte communauté autour permet de faire sauter les doutes sur les risques de retour sur investissement par rapport aux partenaires.
Ouais.
Alors du coup, comment faire si un éditeur n'arrive pas à sortir un jeu phare rapidement? Alors, si l'éditeur c'est un studio d'un grand groupe, bah, c'est un peu plus facile parce que dans un premier temps, il va bénéficier des accords qu'il y a avec les distributeurs étrangers qui sont même parfois des filiales du groupe.
Ouais.
Et si plusieurs jeux ne marchent pas, faut faire attention quand même car un studio peut être revendu ou disparaître totalement comme ça a été le cas de Pearl Game.
Ouais. Et c'est ça aussi, c'est qu'il y a des studios, eux, ils ont plein de locomotives, j'ai envie de te dire.
Oui, alors... pour pouvoir faire ça, nous on a aussi l'impression en tant que consommateur que parfois un jeu se vend très très bien, mais il faut aussi s'intéresser en fait à la marge du jeu.
Ouais.
C'est-à-dire que les ventes parfois ne suffisent pas. Je prends des exemples de Kickstarter où ça va être des jeux comme Zombicide qui vont quand même coûter quand même assez cher à la production, même si au bout d'un moment les moules des figurines sont déjà amorties, mais un jeu comme, prenons Zombicide ou Aventurier du Rail, les deux jeux à la production ne sont pas la même chose que pour un Splendor, par exemple, ou un Uno, voilà, tout simplement, en fait. Alors, pour qu'un éditeur rejoigne Asmodée ou Hachette, hein, les deux mastodontes du secteur ludique, il faut au préalable qu'il soit rentable, donc qu'il ait déjà des assurances de revenus réguliers. Donc, c'est un peu l'œuf ou la poule, c'est-à-dire Bah, est-ce que Asmodée va s'intéresser à racheter un éditeur? Alors, c'est plus trop le sujet maintenant, mais ça l'a été à une époque où ça rachetait à tour de bras. Est-ce que c'est parce que l'éditeur a déjà un jeu phare ou grâce à ça, il va avoir un jeu phare? Bon, là, on n'en sait pas trop. S'il est indépendant, il va falloir qu'il ne quitte pas la vague de sorties annuelles et qu'il augmente sensiblement ses sorties en termes de nombre de jeux.
Mais oui.
Et là, il faut que sa structure lui permette, parce qu'en fait, on dit ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Quand on est un petit éditeur, eh ben, il faut qu'on essaye de se la faire un peu, on va dire, avec jugeote, et essayer de sortir plus de jeux, et en se disant, et c'est la mode hein, en ce moment, mais c'est aussi le modèle économique qui veut ça, en se disant, bah, dans l'eau, on croise les doigts, on espère qu'il y en a un qui va bien marcher,
et oui.
Et on ne sait jamais, ça peut bien tomber. Ou alors, comme Bombix, par exemple, qui n'est pas un studio, mais qui est distribué par Asmodée,
oui.
Qui lui va choisir, en fait, de travailler beaucoup plus longtemps ses jeux, donc va en sortir beaucoup moins que la moyenne du nombre d'éditeurs de son calibre, mais par contre, ce sont des jeux qui vont être, en général, plus soignés, plus travaillés, etc. Le problème, c'est qu'il faut de la trésorerie pour pouvoir travailler longtemps sur un jeu.
Et donc,
il faut assumer des longues périodes sans entrée d'argent, mais en assumant quand même les divers frais, comme les salaires, les frais fixes, les festivals, etc. Alors, c'est pas facile, tout ça, et souvent, il ne faut pas se louper sur la mise sur le marché de son premier jeu, d'où aussi le choix d'un bon distributeur qui vous assurera une première implantation satisfaisante. Parce que maintenant, à l'heure actuelle, dès l'implantation du jeu, le jeu peut mourir prématurément. En fait, comme au cinéma, où les chiffres du jour de la sortie d'un film sont très importants, la semaine de sortie du jeu va donner un indicateur réel
important.
Sur sa vie future. D'ailleurs, même maintenant, pour les précommandes des boutiques, elles sont analysées pour savoir quelle implantation du jeu va avoir. Il y a eu Vichy, le salon, il y a pas longtemps, qui est un salon qui est spécifique en fait pour les boutiques, où là, en fait, les commerciaux des différents éditeurs, c'est une date cruciale pour eux parce que ça va être l'implantation des jeux, les futures commandes des jeux pour Noël. Et là, bah, il faut pas se louper, c'est-à-dire qu'il faut leur vendre du rêve à ces commerciaux.
C'est ça. Et quand t'as les boutiques qui disent oh bah celui-là j'en prends pas, c'est pas bon signe.
Ça va donner au bout d'un moment une idée en fait du fait que le jeu soit mal vendu ou soit bah il corresponde pas à une réalité de terrain. Et tu sais bien que plus le jeu est trouvable en boutique, bah, c'est logique, hein, c'est une impalissade, plus il a des chances d'être vu et d'être vendu, mais il faut que les ludiquaires s'en emparent et puissent le vendre aussi correctement.
Et on parle notamment de ça pour les gros jeux, parce que les gros jeux aujourd'hui c'est compliqué pour les gros jeux
oui,
de sortir du lot.
Oui, les jeux dits experts, effectivement, il y en a de plus en plus qui sont vendus maintenant sur les boutiques des éditeurs directement en ligne, parce que bah, les ventes... pour toucher leur public, les ventes en boutique en dur ne sont pas satisfaisantes. Alors, le problème, c'est combien de temps l'éditeur peut tenir en surfant sur les ventes d'un jeu hein, qui a correctement marché, sans que ça soit un carton total. Bah, ça, c'est pareil, en fait, ça va dépendre en fait des ventes, de l'implantation, etc. La question est assez complexe et chaque réponse sera différente en fonction de la situation.
Ouais.
Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il suffit pas de s'y connaître en jeu de société pour être éditeur de jeu. Et avoir des compétences en comptabilité et en gestion, ça sera de toute façon un bon atout. L'éditeur peut aussi compter sur les influenceurs ou autres presse ludiques afin de pouvoir multiplier sa communication à moindre coût. Alors, on n'est pas aux États-Unis, hein, ici, très peu de médias sont professionnels.
Il y en a quelques-uns,
mais c'est pas la majorité du tout.
Non.
Plutôt une majorité de contenu gratuit qui est mis à disposition, donc qui est proposé aux éditeurs et aux distributeurs.
Oui.
Bon, moi, j'ai toujours trouvé ça étrange, d'ailleurs, que principalement la charge de la communication d'un jeu ne soit pas déléguée totalement à un distributeur. Et qui soit souvent à la charge de l'éditeur. D'ailleurs, bon, il y a des petites, subtilités qui doivent m'échapper, mais c'est vrai que parfois le distributeur a beaucoup de jeux et ton jeu, toi, en tant qu'éditeur, il est un peu noyé dans la masse.
Ouais.
Et s'ils mettent pas le doigt dessus à un moment donné, bah, aïe aïe aïe.
C'est foutu.
Par contre, tu vois, Asmodée, ils viennent de faire quelque chose. Ça évolue pas mal. Dans certains domaines comme la communication et la gestion de la presse ludique, ils viennent en fait de regrouper les studios majeurs.
Oui.
Ça permet aussi peut-être de capitaliser, de synthétiser et de normaliser certaines choses qui n'étaient pas avant. Et peut-être que ça va être aussi un début de mode. Donc ça signifie aussi que l'éditeur il va privilégier très souvent un média qui a une forte audience, hein, du coup, quel que soit son ton ou son modèle de communication ou la manière de présenter son jeu. D'ailleurs, on sait bien que maintenant, les critères, c'est le nombre de followers. Et puis, de temps en temps, il y a même des influenceurs hors jeux de société qui sont sollicités pour certains jeux.
Oui, pas que le nombre de followers, ils cherchent aussi souvent la diversité. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas prendre tous les comptes Instagram.
Ouais, voilà. Il faut que les médias soient aussi un petit peu différents dans leur stratégie de communication.
Voilà.
Du coup, la course à l'auditeur, au liker, au commentateur ou au viewer est donc de mise dans le secteur de la presse ludique. Mais ça, c'était un petit aparté.
Alors, oui, revenons à notre locomotive.
Oui, tout à fait.
Alors,
qu'est-ce qu'on peut, comment un jeu peut être transformé aussi en locomotive? Et ben, les prix ludiques, en fait.
Oui.
Parce qu'à la base, tu peux avoir un jeu qui passe un peu à travers, comme ça, les rayons. Mais donc, c'est un peu moins vrai pour l'As d'Or que pour le Spiel des Jahres, qui est en Allemagne. Mais dès qu'un jeu gagne un prix de cette envergure, il paraît évident que le jeu aura une trajectoire commerciale différente de ses concurrents. Donc là, l'exemple de Colt Express nous montre clairement qu'un petit éditeur, petit entre guillemets, surtout à l'époque, comme Ludonaut, a réussi à vivre sur le succès et les ventes du jeu pendant quelques années. Et était en confort pour pouvoir sortir des jeux un peu plus de niche et dont certains ont peut-être été un petit peu trop loin, mais bon, Cédric qui est le patron de Ludonaut s'est un peu fait plaisir, même si ça paye pas à chaque fois.
C'est sûr.
L'assurance de vente et de rentrée d'argent régulière offre un tapis confortable, ça c'est clair, en termes de création et d'édition ludique aux éditeurs, qui rêvent tous de sortir un jeu qui va transformer leur quotidien et leur niveau de trésorerie. Mais tout le monde n'a pas la chance de gagner un prix ludique prestigieux comme ces deux-là, comme l'As d'Or et le Spiel. Et que nous sommes simples joueurs, nous avons tendance à minimiser l'impact financier des prix majeurs. Moi-même, très intéressé dans le marché du jeu, je ne peux pas te dire à l'heure actuelle quels sont les impacts financiers de ces prix-là. Il y en a qui vont annoncer des chiffres, il faudrait vraiment comparer les éditeurs pour voir à combien c'est multiplié par rapport à un jeu qui n'aurait pas eu de prix. Donc on se demande aussi si les différents membres des jurys ont aussi cela en tête, hein, quand ils font leurs choix finaux, ou bien si c'est juste le ludique qui est pris en compte, parce que maintenant de plus en plus la compétition s'est installée. Alors pourquoi donc ne pas tenter de toucher au Graal et de mettre sur le marché une poule aux œufs d'or, une vache à lait, ou comme on a dit, une locomotive qui permettra de vivre un futur plus ou moins proche de façon plus lisible et fluide. Quoi qu'il arrive, on peut vivre en tant qu'éditeur avec ou sans locomotive. C'est juste qu'en fait, la gestion de sortie du jeu et de création des jeux ne sera pas la même. Mais la tension au sein de l'équipe non plus. En fait, la valorisation des produits ne le sera pas non plus. Et on le sait bien qu'en termes de lisibilité sur le futur, c'est une des données qui est hyper importante, quel que soit le secteur d'ailleurs de production, mais encore plus dans le monde du jeu de société, Matt.
Eh ben, merci beaucoup, Ludo. On aura l'occasion de parler de locomotives vendredi, notamment, hein, puisque je serai avec Hélène de Repoprod. Elle en a des locomotives, elle, entre Seven Wonders ou encore Time's Up. Je pense que là, ici, il y a de la locomotive. Ici,
exactement.
Ça roule. Ça roule bien. Merci beaucoup, Ludo, et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, et on parlera de contrefaçon.
Oula! Oh, et puis là, j'en ai vu quelques-unes de contrefaçon, ils sont pas belles, hein.
Pas longtemps.
J'ai vu
moi
un Splendor.
J'en ai remonté quelques-unes.
Un Splendor sur Vinted. Oulala, il était pas beau celui-là. Hein. Ils ont oublié les pions, c'est pas les mêmes.
C'est clair.
Allez, merci Ludo.
À
salut.
À bientôt, bonne semaine.